Donc c'est mon aujourd'hui un honneur pour moi d'ouvrir ce premier panel. Je voudrais demander à Madame Helga Tseplarouche de venir au podium pour donner le discours d'introduction. Donc je rappelle que nous venons d'entendre le Schaffe können sicher weiden, les moutons peuvent brouter en sécurité, qui était la cantate de la chasse, BW 208 de Jean-Sébastien Bach, arrangé pour piano, par Yao Tsi.
Das ist doch einfach.
Well, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis de l'Institut Schiller, je pense que nous sommes tous venus à cette conférence parce que tout le monde qui est dans cette pièce sait que nous expérimentons actuellement une crise systémique et existentielle de la civilisation. Il y a la coïncidence d'un danger de guerre avec l'OTAN qui se confronte à la Russie de manière très agressive, qui peut amener à une troisième guerre mondiale. Vous avez une conférence également dans la mer de Chine, une conférence contre la Chine, le danger d'un nouveau krach financier du type de ce qui est arrivé en 2008 qui pourrait faire exploser le système. Et bien évidemment, il y a deux jours désormais, le Brexit, la Grande-Bretagne quittant l'Union européenne. Et comme nous le savons tous, ce n'est pas un vote contre l'Europe en tant que telle, mais c'est un vote contre un système complètement injuste et des élites corrompues. Il y a un sujet fondamental, c'est de définir les solutions à cette crise, à ces crises. Qu'est-ce qui serait ce nouveau paradigme? Et est-ce que l'humanité est capable de sortir de ces crises existentielles? Nous avons aujourd'hui des invités exceptionnels de beaucoup de continents, de beaucoup de pays. Et évidemment, ces personnalités qui sont déterminées qu'une solution doit être trouvée. Et avant que je rentre dans ces dangers successifs, la solution est facile. Donc soyez calme, si les hommes s'unissent avec un bon plan et agissent en solidarité, avec solidarité et courage, alors toutes les crises de la civilisation peuvent être résolues, parce que c'est la nature même de l'être humain. Donc une plus grande force de bien peut émerger de ce type de crise.
Now, look at the situation, what happened.
La Grande-Bretagne a voté à 52% pour quitter l'Union européenne. Immédiatement, vous avez une explosion sur les marchés financiers. 5 000 milliards de livres sterling qui sont disparus. On appelle ça le vendredi noir maintenant, et ça ne va pas s'arrêter. Donc les gens sont désemparés. Comment avons-nous pu avoir si faux, attendre si tard et penser que tout irait bien? Comment se retrouve à un pied du krach financier? Et je vais en parler. Mais d'abord, peut-être que le Brexit n'est qu'un début. C'est un vote contre une bureaucratie supranationale, la dictature de Bruxelles, un vote contre la corruption et la destruction de la souveraineté nationale, de toute cette Commission européenne qui a été complètement aliénée ici en Europe, avec cette Union européenne qui n'a aucune unité, il n'y a aucun humanisme, et donc c'est la chance unique de construire une nouvelle Europe. Et je me rappelle, lors d'une conférence de l'Institut Schiller en 2003, c'était le jour de la guerre, du commencement de la guerre d'Irak, et j'ai commencé mon discours en disant « Est-ce que ces gens sont si fous que d'attaquer un pays basé sur des mensonges, ils vont appeler les Erenis, c'est-à-dire les anges de la loi naturelle, qui vont revenir et créer un chaos plus grand. Parce qu'il y a une justice qui corrigera les choses, une justice supérieure qui corrigera ces mauvaises décisions. Et j'avais dit ça en 2003. Et la connexion entre le vote des Britanniques contre l'Union européenne et son adhésion et les guerres illégales contre l'Irak, et c'était la guerre d'Irak, je vous le rappelle, qui était une cause primaire de la crise des réfugiés. Et pourquoi l'Europe est si désemparée aujourd'hui, c'est que pour ça que les gens votent. Voilà, ça détruit l'Empire britannique. Et la Grande-Bretagne va se réduire si l'Écosse, l'Irlande, tous ces pays disparaissent, se séparent. Donc il y a des forces, ces forces d'Erenis, de loi naturelle, qui reviennent aujourd'hui. Mais je voudrais me concentrer sur les dangers sous-jacents à la situation, même si ça ouvre des grandes portes aujourd'hui pour trouver des solutions. Donc nous sommes assis sur une poudrière. Et toutes les crises actuellement stratégiques peuvent déclencher une guerre thermonucléaire. Il y a beaucoup de gens, ou tout du moins un certain nombre de gens, parmi lesquels des experts militaires, qui disent que la situation est plus dangereuse aujourd'hui qu'aux plus hautes tensions durant la guerre froide et la crise des missiles de Cuba. Même si ce danger des guerres est présent depuis longtemps, dernièrement, tout le monde commence à en parler. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères, qui parle des manœuvres de l'OTAN comme vraiment une erreur tragique de la part de l'OTAN. Et la conférence de Munich, qui est le président Stolker, ils disent que c'est un danger d'escalade, de confrontation militaire, et que l'OTAN doit se retirer. L'OTAN empire la situation jusqu'à un point de guerre réelle. Professeur de New York, les États-Unis sont aujourd'hui la plus grande menace pour le monde. Et si l'administration Obama, ce que tous les gens l'appellent à ne pas faire, de virer Bachar el-Assad, en une période de temps très courte, l'État islamique prendrait la capitale, Damas, et les États-Unis s'engageraient dans une guerre contre la Russie en Syrie. Donc il y a ce danger-là. Et entre aujourd'hui et juillet, avec le sommet de Varsovie de l'OTAN, 5 grands exercices militaires sont faits dans les pays baltes et la Pologne, entre 50 000 et 60 000 troupes de l'OTAN actuellement en exercice. Et les États-Unis actuellement bougent des bateaux de guerre, justement, avec des missiles Aegis dans la mer Noire, dans les pays baltes et dans la mer Baltique. Également des troupes italiennes seront mises dans les pays baltes de l'OTAN après le sommet de juillet. Une grande modernisation des armes nucléaires, de l'arsenal nucléaire des deux côtés. Donc une dynamique
exactement.
C'est ce qui se passe également dans la mer de Chine, entre les États-Unis et la Chine. Il n'y avait pas de problème dans la mer de Chine avant que le gouvernement des Philippines, dans une violation complète des lois internationales poussées par les États-Unis, qui était le gouvernement précédent, a lancé cette dispute territoriale, justement, à La Hague. Et les États-Unis, sous le prétexte, évidemment, de la liberté des peuples et des peuples à disposer de leur environnement, continuent à violer littéralement les zones d'exclusion maritime de ces pays. Et toute une propagande est lancée justement pour lancer cette propagande contre la Chine. Et que la Russie, a colonisé, annexé la Crimée. Et c'est pareil, les Chinois, eux, ont annexé les îles dans la mer de Chine. Donc, toujours le même discours. Donc une attitude très agressive contre la Russie et la Chine. C'est un mensonge complet. Donc la question à partir de laquelle nous devons commencer. Donc on est après la Seconde Guerre mondiale, ou 71 ans après la Seconde Guerre mondiale, on a dit plus jamais de génocide, plus jamais de guerre.
Et
25 ans après la désintégration de l'Union soviétique, nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Il y a des nouvelles traductions aujourd'hui qui sont disponibles, qui montrent entre 1889 et 1991, il y a eu toute une série de conférences où les États-Unis avaient donné leur promesse à l'Union soviétique de ne jamais s'étendre au-delà, vers la frontière russe. Le 9 février, le secrétaire d'État James Baker, à l'époque, il a dit si l'Allemagne était réunifiée en tant que partie de l'Ouest et rejoint l'OTAN, alors les États-Unis, je cite, une garantie de fer qu'ils ne s'étendront pas à l'Est. Et ça, c'était clair dans les décisions et pourquoi Gorbatchev a accepté dans les discussions la réunification de l'Allemagne, mais il n'y avait pas de deal formel. Mais il y avait des ambassadeurs, tout le monde était là pour valider. Et James Baker a donné sa promesse le 18 mai 1990, que les États-Unis coopéreront avec l'Union soviétique pour le développement d'une nouvelle Europe. En juin 1990, a dit George Bush, Bush père, a également réitéré cette promesse. Mais les néoconservateurs aux États-Unis ont travaillé justement sur le projet pour un nouveau siècle américain. C'est la doctrine américaine actuelle qui fait que les États-Unis, après justement l'effondrement de l'Union soviétique, devraient insister sur la mise en place d'un monde unipolaire et n'autoriser aucune nation ou groupe de nations pour devenir supérieur à l'hégémonie économique américaine. Donc, mais déjà au milieu des années 90, des anciens pays du pacte de Varsovie, la République tchèque, les pays baltes, la Pologne, sont réorientés vers l'OTAN. Yeltsin, Medvedev, Gorbatchev ont à l'époque dénoncé cette violation de ne pas respecter leurs promesses et de s'étendre finalement à l'Est. Vers la Russie. Ils sont allés vers des politiques de changement de régime, comme on l'a vu avec Victoria Nuland, qu'ils ont dépensé plus de 5 millions de dollars pour faire une révolution de couleur en Ukraine. Et Helmut Schmidt, qui est l'ancien chancelier allemand, a dit que la crise ukrainienne a commencé avec les accords de Maastricht de l'Union européenne, parce que c'est le moment justement où l'Union européenne est devenue un empire, avec l'idée de sans fin avoir de nouveaux membres. Et cette expansion à l'est de l'Union européenne est à mettre en parallèle avec l'expansion de l'OTAN. Donc ce qui a déclenché la crise ukrainienne et la crise vis-à-vis de la Russie plus généralement, c'était au sommet de Vilnius de l'Union européenne. En 2013, ils ont voulu établir un partenariat à l'Est et associer l'Ukraine avec l'Europe, avec l'Union européenne. Mais au dernier moment, Yanukovych a reconnu que bon, ça aurait donné accès à l'OTAN à l'Ukraine et donc s'est orienté vers la Russie plutôt que vers... aurait pu ruiner l'économie ukrainienne avec les produits européens. Donc il a changé au dernier moment de position. Et là, il y a eu la mise en place via des organisations non gouvernementales, la manipulation des groupes néo-nazis, des groupes liés à Bandera historiquement, et réaliser ce coup d'État en février 2014. Et le référendum, et ce n'était pas une annexion, c'était un référendum par la majorité des habitants de la Crimée, qui a été une réaction justement à ce coup d'État fasciste à Kiev. Et ça doit être dit clairement, parce que si on regarde cette chronologie, on est dans la propagande de guerre qui nous conduira à la Troisième Guerre mondiale. Donc dans cette même période, la doctrine de l'OTAN est passée d'une politique de destruction mutuelle assurée, c'était que personne ne puisse utiliser des armes nucléaires puisque ce serait l'annihilation de l'humanité. La politique de destruction mutuelle assurée, ça a été développé à un concept utopique de guerre gagnable, limitée par l'utilisation d'armes nucléaires. Ça, c'est la nouvelle doctrine de l'OTAN et c'est la logique derrière l'établissement justement des missiles, antimissiles, balistiques au niveau international, que ce système, alors que ce système n'est pas capable, qui aurait dû être démantelé après justement les accords faits par les partenariats P plus 5 connus sous ce nom-là avec l'Iran et la fin de l'embargo. Donc une guerre de première frappe et pourrait être gagnable avec l'arme nucléaire. Voilà la nouvelle doctrine qui a appliqué aujourd'hui par l'OTAN. Le même Obama qui avait promis en 2009 qui va libérer le monde du danger de l'armement nucléaire a investi 1 000 milliards de dollars dans l'arsenal nucléaire américain au niveau international. Donc les B-71 qu'il installe justement actuellement dans les pays d'Europe, c'est-à-dire c'est de moderniser des mini-armes nucléaires tactiques parce qu'on peut les mettre sur des missiles plus petits et casser finalement le système de défense de ses opposants. Et voilà. Donc c'est les missiles de longue portée, on appelle ça balistique. Et le sénateur Feinstein et les experts de la sécurité, ils ont fait une lettre ouverte dans le New York Times il y a quelques semaines. Ils ont dit que ce système ne doit pas être construit parce que ça augmente le danger de guerre nucléaire en flouant les lignes entre les armes conventionnelles et les armes nucléaires. Donc, toute l'idée de construire des nouvelles armes nucléaires est non nécessaire, très chère et dangereuse. Et je dirais, et je rajouterais que c'est criminel, parce que c'est la préparation d'une guerre d'agression que le tribunal de Nuremberg avait qualifié comme le plus haut crime contre l'humanité. C'est la situation, et ça me rend dingue, parce que cette situation qui est plus dangereuse que durant la crise des missiles de Cuba et de la guerre froide, pour différentes raisons d'ailleurs, parce que ça aujourd'hui implique des armes nucléaires entre l'OTAN et l'Est de manière générale. Il n'y a plus de téléphone rouge entre Poutine et Obama. Donc malgré le fait que ce soit plus grave, les gens dorment. Les gens sont en train de dormir alors que le monde se prépare à une troisième guerre mondiale, comme au moment de la seconde. Et le but de cette conférence est de changer ça et d'avoir un débat public que nous ne voulons pas être partie prenante dans cette guerre qui s'engage. Donc maintenant, il est temps de quitter l'OTAN. Je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent, mais quand il y a un danger clair, continue de cette politique poussée par l'OTAN actuellement peut mener à l'extinction de l'humanité. Je pense qu'il est seulement possible de donner une seule réponse. On doit sortir de cette organisation criminelle qui prépare la guerre. Il y a une seconde crise existentielle que nous connaissons tous, qui est la possibilité immédiate d'un crash du système transatlantique financier. Bank of America et toute autre banque, comme dans 2008, sont dans un pire état que 2008. Vous savez, les subprimes, les crédits hypothécaires aux banques qui sont trop grosses pour faire faillite, comme on les appelle.
They have bubbles in other areas, cars.
Donc il y a des bulles dans tous les secteurs. La seule différence avec 2008, c'est que tous les instruments des banques centrales ont été utilisés jusqu'à l'os. On peut faire plus bas que des taux d'intérêt négatifs. Donc, on peut même leur demander de payer 10% pour mettre leur argent dans les banques, la Commerzbank, et les grands ne mettent plus l'argent dans les banques. S'ils le mettent sous leur matelas, ils le gardent différemment. C'est le système de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire qu'on imprime sans fin et répondre à la crise du Brexit actuellement, la Réserve fédérale et la BCE et la Banque d'Angleterre travaillent 24 heures sur 24 pour décider combien de monnaie ils vont balancer depuis les hélicoptères pour éviter le crash du système financier. C'est la fin de ce système. Donc on doit comprendre que ce système est terminé. Donc il n'y a pas de raison d'être désespéré, parce que le Brexit ouvre une porte pour justement développer une nouvelle stratégie pour un nouveau système. L'Institut Schiller et sa campagne, depuis 2013, depuis que Xi Jinping a annoncé le projet de la nouvelle route de la soie, cette approche doit devenir une approche, le programme global de reconstruction de l'économie mondiale. Et nous avons publié une étude qui dit que la nouvelle route de la soie doit devenir le pont terrestre mondial. Et si on regarde ce qui s'est passé justement avec cette annonce de la nouvelle route de la soie, en moins de 3 ans, ce nouveau système a développé une dynamique gigantesque. Aujourd'hui, 70 pays travaillent déjà avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui est associée à ce projet de la route de la soie. Et d'ici à la fin de l'année, peut-être jusqu'à une centaine de pays pourraient rejoindre cette organisation. 80 pays sont dans l'organisation de coopération de Shanghai et les BRICS, l'association de ces 5 pays. Un nouveau système bancaire que met en place la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la nouvelle banque de développement, le fonds pour la route de la soie, le fonds pour la route de la soie maritime. Donc, la nouvelle route de la soie progresse très rapidement. Il y a maintenant de Chengdu, Chongqing, Yiwu, Yangyang, Madrid, Lyon, Duisburg, Hambourg, Rotterdam, toutes ces villes sont désormais connectées grâce à ce projet de la nouvelle route de la soie. Le président Xi Jinping, qui était en République tchèque, en Pologne, en Serbie, en Allemagne, en France, et partout, l'idée de la coopération de la Chine, de la nouvelle route de la soie avec ces pays, est devenue la dynamique puissante que nous voyons devant nous aujourd'hui. L'Autriche veut également devenir un hub, un point incontournable de cette nouvelle route de la soie. La Grèce rejoint le fond de la route de la soie maritime avec le port de Pirée. Et la Chine construit un train entre Budapest et Bucarest qui va se connecter justement avec la route de la soie maritime justement vers le port de Pirée. Donc il y a toute une connexion. Le président de Mukashi d'Inde était en Chine et a parlé justement de le partenariat stratégique entre l'Inde et la Chine. Et tout ce que vous entendez sur les tensions stratégiques entre la Chine et l'Inde, c'est de la propagande, vous oubliez. Le président Xi Jinping a été en Iran et ils se sont mis d'accord pour dire que la route de la soie irait de la Chine en Iran. Et Modi également a été en Iran juste après avec le président Ghani d'Afghanistan. Ils ont discuté que non seulement ils allaient construire le port de Shahabad, qui sera un enjeu majeur pour la nouvelle route de la soie entre la Chine et l'Inde, mais que l'Afghanistan veut être également un point incontournable dans le développement de la nouvelle route de la soie entre la Chine et l'Europe. Et l'Afghanistan, dans ce processus, pourrait être reconstruit. Et Xi Jinping, en 2013, a dit « Tous les pays du monde, je les appelle à rejoindre une dynamique de développement gagnant-gagnant. » Et Poutine, également, a parlé d'intégration de l'Europe, de l'Atlantique au Pacifique, de Vladivostok
to Lisbonne.
De Vladivostok à Lisbonne.
Donc,
regardons la situation.
What spirit and historical precedent is necessary to make it possible that
faut-il aujourd'hui pour que les nations européennes entrent dans une alliance avec l'économie, l'alliance eurasienne et cette politique d'une une ceinture, une route, et changer la géométrie? Premièrement, on doit commencer avec la réalisation que l'Union européenne, dans la conception de Adenauer et de Gaulle, comme une alliance de nations, avec le traité d'Élysée entre De Gaulle et Adenauer, malheureusement, qui a été par la suite modifié avec un préambule, et que cette modification a permis à l'UE, l'Union européenne, à mener au traité de Maastricht, traité de Lisbonne, que ce modèle a échoué. Il est fini. Et si on regarde à la Troïka et son attitude dégueulasse contre la Grèce et les pays du sud de l'Europe, mais particulièrement si on regarde comment l'Union européenne a fait face également à la crise des réfugiés, vous pouvez voir vraiment un effondrement moral complet de cette Union européenne. Schengen, c'est pareil, c'est terminé. On construit des murs aujourd'hui en Europe. Il n'y a plus de libre circulation. Il n'y a pas d'unité dans l'Union européenne aujourd'hui. Il n'y a plus de solidarité dans l'Union européenne aujourd'hui. Il n'y a plus de solution dans l'Union européenne aujourd'hui. Il n'y a plus de vision. Et les gens qui ont financé 6 milliards de dollars dans le financement, justement, pour les gens qui fuient l'État islamique et ils sont dans des camps sans, dans des conditions horribles qui violent le droit humain. Médecins sans frontières ont tout à fait raison. Ils disent, voilà, nous refusons l'argent de l'Union européenne parce que à cause de cette attitude de la gestion de la crise des réfugiés. Et les populistes d'extrême droite fascistes en Europe est le résultat de cet échec de l'élite européenne. Qui s'est soumis à cette dictature de l'Union européenne. Ambrose Pritchard, qui est un agent du MI5 qui travaille pour le Daily Telegraph, journal anglais, il a dit que l'Union européenne aujourd'hui faisait la politique britannique. Et c'est ce que Churchill voulait explicitement. Il voulait une Europe unie où les Anglais seraient à l'extérieur pour être capables de manipuler de l'extérieur et diriger le monde sur cette relation spéciale avec les Anglo-Américains et l'Europe. En 62, quand Adenauer était en France et qu'il y a eu cette journée mémorable où De Gaulle a été venu en Allemagne, où ça a été vraiment, il était adulé, même en Allemagne, et ils ont proposé une alliance sans la Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes prêt à bosser avec la France, nos deux pays? Et Adenauer a dit oui. L'idée de l'Union, c'était le traité de l'Élysée, donc en 1963, avant le plan Fouché. Malheureusement, De Gaulle et Adenauer ont perdu le combat justement contre les attentistes du Bundestag. Et tout ça n'a pu vraiment être mis en place. Adenauer s'est affaibli dans son pays et le successeur se préparait déjà à prendre sa place. En mai 63, et il y a un préambule qui a été ajouté justement dans ce que voulaient De Gaulle et Adenauer, donc une alliance privilégiée avec les États-Unis, une défense commune avec l'OTAN, la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, la communauté économique européenne et des accords de libre-échange. Donc, les Atlantistes ont complètement remporté le paquet, le magot, et c'était la dernière chance justement en Europe qui amène à cette crise aujourd'hui. Donc c'est clair, l'Europe doit trouver une nouvelle forme de travailler ensemble. Évidemment, la City de Londres, Wall Street, qui ont toujours été des dépendances de l'Empire britannique, sont mortellement opposés aux solutions que nous discutons ici. Il y a l'ancien ministre de l'éducation de Brandt dans les années 70, Klaus von Donani, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung à l'époque, parlant de la coopération de Gaulle-Adenauer et que le plan original de l'économie de la communauté européenne, c'était sans la Grande-Bretagne, sans intégration explicite dans l'OTAN, et d'avoir aucune responsabilité claire pour le Parlement ou la Commission européenne. C'était l'idée d'une Europe des pères fondateurs. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg. Et De Gaulle voulait cette union politique d'États-nations souverains. Et il était très concerné justement que... Et s'il y avait une crise en Europe, les États-Unis ne chercheraient qu'à défendre leurs propres intérêts. Donc, il y a eu l'invasion de l'Union soviétique sur le territoire allemand. Les États-Unis ont utilisé des armes nucléaires tactiques. C'était tout ça pendant la période de la guerre froide, et tous ceux qui étudient ça en profondeur le savent. Donc, essentiellement, la situation aujourd'hui. C'est la même situation. Et dans les années 50, Adenauer avait fait un interview à Kingsbury Smith que l'union entre l'Allemagne et la France donnera une nouvelle vie et un impétus frais à l'idée européenne. Et Donani, même Helmut Schmidt, qui soutenait le préambule qui a été rajouté, a lui-même reconnu que ça a été, beaucoup plus tard, il a reconnu que c'était une erreur tragique. Et l'alliance entre la France et l'Allemagne, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de progrès en Europe. Alors, est-ce que le gouvernement allemand, dans la nouvelle situation, peut prendre une telle initiative aujourd'hui? Et Donani, à l'époque, met le débat. Ça doit venir de la société et des partis, et l'alliance franco-allemande est la seule voie possible pour sortir de l'ambiance pessimiste. Donc on doit retourner justement aux deux hommes de caractère les plus courageux de l'époque, De Gaulle et Adenauer. Peut-être est-ce une coïncidence, mais Steinmeier a invité à un sommet en Allemagne. Il y a l'Italie, les pays du Benelux et la France et l'Italie. Mais ils disent oui, c'était déjà prévu depuis longtemps, mais on retrouve là l'esprit presque des pères fondateurs. Donc avec ces références historiques en tête. Donc maintenant, regardons sur une base plus épistémologique ce qu'est ce nouveau paradigme. Comment faire réaliser ces buts communs de l'humanité, de se mettre d'accord pour mettre un terme à cette géopolitique et organiser un partenariat de développement international? Bon, qui a raison? Est-ce ceux qui disent que les conflits géopolitiques seront toujours, le chauvinisme sera toujours présent, la xénophobie contre d'autres nations, la haine contre des groupes ethniques sera toujours? Et moi, je vous dis, c'est que ces gens pensent à un niveau, au niveau des perceptions sensorielles, au niveau aristotélicien, et ne voient pas l'union des contradictions. Donc, on doit avoir un niveau de pensée complètement différent. Et je voudrais, pour ça, parler de Nicolas de Cuse, qui était peut-être l'homme le plus passionné, l'activiste le plus passionné pour exprimer justement cette relation entre le un et le multiple. Il a développé des méthodes de pensée révolutionnaires, donc coincidentia oppositorum, qu'on traduit par la coïncidence des opposés. Et donc, ce qu'il a défini, c'est que les droits inaliénables, légitimes dans les nations, mais ils sont unifiés. C'est le spiritus universorum, c'est l'esprit universel qui discute dans la docta ignorantia, la docte ignorance, qui est efficient dans l'ensemble de l'univers. Donc les univers ne sont que l'expression de la diversité, la spécificité, mais leur unité existe avant leur diversité. Et vous voyez déjà ça, vous retrouvez dans Confucius qui dit qu'il y a l'unité dans la diversité. Tout l'univers, dit Nicolas de Cuse, précède tout qui coïncide le plus parfaitement possible à l'ordre de la nature. Donc tout ce qui participe justement à l'univers est en germe dans l'univers dans son ensemble. Donc il faut qu'un ordre inclusif s'organise aujourd'hui au niveau international, parce que l'unité préexiste avant la multitude. Et c'est pour Nicolas de Cuse, c'est l'humanité en tant que une, avec toutes ses expressions nationales, qui sont d'importance moindre. La lumière, la peau blanche d'un Allemand et la peau noire d'un Éthiopien sont la même peau. Il a voyagé dans toutes les nations européennes, à Constantinople. Et quand Mohamed II, justement, a pris Constantinople en 1453, il y a eu un gros clash de civilisation à l'époque. Et en réponse à ça, a écrit un dialogue œcuménique qui s'appelle « De pace fidei », la paix de la foi, dans sa traduction française. Donc c'est un dialogue entre tous les leaders religieux de toutes les religions. Et ils sont tous d'accord qu'il y a une seule vérité, un seul Dieu, et comme Confucius disait lui-même, une harmonie. La concorde est la plus haute forme de vérité, dit Nicolas de Cuse dans la Concordance catholique. Il y a différentes nations et religions, et leur dialogue est possible parce que toutes peuvent justement produire des découvertes universelles et les transmettre aux autres. Et toutes les découvertes, disait-il, faites par un pays peuvent immédiatement être faites par tous les autres pays pour que tout le monde puisse profiter de ce qu'il n'avait pas encore découvert auparavant.
Now, what Nicolas did.
Et ce qu'a fait Nicolas de Cuse, c'était consciemment de briser avec les axiomes, les croyances populaires du Moyen-Âge, ce qu'on enseignait dans les universités aux élites. C'était la scolastique, les péripatéticiens qui ne croyaient qu'en la logique et la contradiction. Et Nicolas de Cuse regardait au-delà des perceptions sensorielles, qui voyait les sens comme des outils, en fait, qui mettaient les choses en lumière. Mais rien ne donnait les sens ne donnaient rien de créatif. Donc, la création du nouveau ne peut venir que de l'esprit de la raison, qui vient d'un niveau de pensée supérieur où la contradiction, justement perçue par le niveau inférieur, disparaisse. Et l'intellect humain connaît à ses connaissances en lui. Parce que s'il ne les avait pas, on ne serait même pas en train de chercher quelque chose. Et si on trouve quelque chose, on ne saurait même pas que ce qu'on a découvert, c'est ce que nous cherchions. Parce qu'on a cette connaissance première, plutôt. C'est pas le résultat d'une déduction, mais c'est une forme d'intuition, de préscience. Et c'est ça qui amène à la créativité de découverte de principes physiques dans la science et l'art classique. Tous les êtres humains ont des conditions naturelles à exprimer cette humanité. Et dans la plupart des cultures, on enseigne comment atteindre ce niveau de créativité et de raison, comment dépasser la barbarie d'émotions non éduquées, de pensées logiques. Dans la tradition confucéenne, il y a une demande pour une éducation permanente, éternelle. Et tout le monde doit avoir cette aspiration à devenir une Utsi, qui est une personne noble, dévouée au bien commun. Et pour moi, Schiller a été peut-être le penseur le plus pour la perfection de l'humanité et de l'être humain par l'éducation esthétique, a été l'un des plus grands penseurs. Il voulait éduquer les émotions au niveau de la raison, jusqu'à la raison, pour que chaque personne peut devenir une belle âme. Là, la belle âme, là où la liberté et la nécessité sont une seule et même chose. Pour lui, l'histoire universelle prend en compte toute l'humanité. L'enseignement de la culture des autres, ce qu'a apporté telle nation, cette culture-là, tout ça fait un tout, mais toutes ont un potentiel de développement pour atteindre le niveau de citoyen du monde, comme il le définit dans ses lettres sur l'éducation esthétique. Et Schiller dit, les barrières seront brisées, où les États seront unifiés et les égaux disparus. Dans un monde unifié, où les gens seraient des citoyens du monde, et toutes les lumières du siècle pourront se répandre sur des nouveaux Erasmes et des nouveaux Galilée. Et l'humanité est aujourd'hui à ce point-là. On est au début d'une nouvelle ère qui peut être accessible si on agit de la bonne manière. L'humanité peut atteindre ce que Kraft-Ericke appelait l'impératif extraterrestre, ce qui veut dire que l'homme peut devenir un adulte. Et Kraft-Ericke, le plus grand scientifique spatial de l'Allemagne, et comment lui développer ces concepts de la colonisation de l'espace, de l'exploration spatiale serait la prochaine phase de l'évolution de l'espèce humaine. Il a développé ça de manière très belle. Comment cela se passerait dans le temps long, le développement de la vie, justement le développement de la vie est arrivé sur la Terre, puis la photosynthèse, la vie s'est développée et a empli la Terre, amphibiens, reptiles, cette évolution des sauts qualitatifs jusqu'à l'homme, et comment l'être humain, lui, qui vivait justement auprès des rivières, ensuite, grâce aux infrastructures, a ouvert les terres à son habitat. Et maintenant, et la nouvelle route de la soie, qui devient le pont terrestre mondial, va finaliser cette phase de l'évolution et ouvrir justement une nouvelle ère de développement. Et Kraft-Ericke disait déjà que la recherche spatiale internationale et les voyages spatiaux est le prochain phase de l'évolution humaine dans l'univers, que l'humanité va devenir une espèce qui vivra dans l'espace. Et on doit être pleinement conscient que dans cette crise actuelle, une chance extraordinaire de faire cette nouvelle renaissance est peut-être même plus important que de tous les changements du Moyen-Âge au temps moderne. Parce que si on brise les axiomes de la globalisation, mondialisation, de la pensée déductive qui ont amené à cette crise, et on se concentre sur la créativité de l'humanité, ce qui nous distingue fondamentalement des autres espèces, alors nous pouvons voir, même nous pourrons voir un monde dans lequel chaque enfant sera éduqué universellement et que ce sera une condition naturelle de l'humanité d'être un génie, que c'est humain d'être pleinement développé, de développer son potentiel. C'est notre nature en tant qu'espèce créative, scientifique, des gens qui font des découvertes. Aujourd'hui, on ne connaît même pas certaines questions. Aller sur le côté sombre de la Lune, la face cachée de la Lune. Il y a plein de secrets dans l'univers dont on ne connaît même pas les questions à poser pour les découvrir. Et les gens vont devenir de meilleures personnes. Et je pense que la vraie nature de l'être humain est d'être bon. Chaque être humain a la capacité sans limite de perfection pour son âme et pour accomplir cela et enrichir cela. Et nous travaillons pour ça.